disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux pour continuer notre lecture cursive de l'Évangile de Jean en la compagnie du Père José Willibald Michaud à Maritsou. Nous avons longuement évoqué dans l'émission précédente la guérison du paralytique à Jérusalem au chapitre 5. Et puis après cette guérison qui se termine par la montée de la violence, de l'hostilité des Juifs par rapport à Jésus, au verset 18, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le faire périr, car non seulement il violait le sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. L'hostilité grandit, et alors le chapitre s'arrête en quelque sorte, arrête le récit en tout cas, pour toute une réflexion sur l'intimité entre Jésus et son Père.
C'est là que nous en étions restés. Et le verset sur lequel nous avions terminé, c'était « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait ». Jésus va insister souvent sur ce lien entre son activité et l'agir du Père à travers lui. Et il lui montrera des œuvres plus grandes encore que celles-ci, si bien que vous en serez stupéfait. Donc, Jésus annonce un dévoilement plus complet. Alors, car de même que le Père ressuscite les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Ça, c'est aussi une affirmation. C'est la première fois que Jésus parle aussi clairement.
Et puis alors, justement, à ce moment-là, s'amorce le thème du jugement. Nous sommes au verset 22, Père José.
Exactement. Oui, car le Père ne juge personne, il a remis au Fils le soin de tout juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc, le thème du jugement est introduit ici, et on peut se méprendre à son propos. Pour nous, le jugement a quelque chose de menaçant, un peu d'écrasant, de dirimant, alors que pour Jésus, le jugement, c'est simplement l'arrivée à la manifestation de la vérité enfouie jusqu'ici dans l'obscurité. Et la parole de Jésus permet d'affronter, mais de traverser le jugement. Il n'est pas soumis au jugement, mais il est passé de la mort à la vie, celui qui croit, celui qui s'ouvre à la parole de Jésus. Cette écoute ouverte est une promesse de vie et même de résurrection. Donc, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et celui qui l'auront entendu vivront.
Au fond, le jugement que l'on prend souvent pour une sanction est en fait ici une traversée, une éclosion.
Une traversée, un aboutissement, un accès à la vie dévoilée. C'est un dévoilement, le jugement.
Et donc, ici, ceux qui entendent la voix, y compris les morts, nous sommes déjà dans la résurrection ?
Pour Jésus, la résurrection commence dans l'écoute. Celui qui, dès maintenant, écoute, entre dans une sorte de vie éternelle. La vie éternelle est commencée pour Jésus. Et la mort ne sera qu'une traversée, une brève traversée.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un peu l'impression que le Père ici, qui est à l'origine de tout, est un peu en retrait, tandis qu'il a donné au Fils de posséder la vie en lui-même, il lui a donné à ce Fils le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Toujours cette expression un peu mystérieuse.
C'est ça. Jésus revient sur le fait que c'est son humanité, son incarnation, qui lui permet cette œuvre de libération. C'est parce qu'il est homme, vraiment homme, qu'il peut libérer l'homme jusqu'au bout, le faire aboutir.
Vous venez d'évoquer l'incarnation, Père José. C'est décisif, là, c'est décisif dans le christianisme, évidemment.
Je crois. Oser croire que Dieu a voulu se faire homme pour diviniser l'homme, c'est d'ailleurs un vieux thème des Pères de l'Église, c'est fondamental. Le fait que Dieu touche l'homme, le touche presque matériellement, transforme et l'humanité et même la création tout entière. Non, l'incarnation, c'est fondamental. Et je crois que la vieille philosophie hindoue approchait de cette intuition. Les théologiens hindous actuels sont très proches de nous et surtout de la théologie johannique. Mais c'est fondamental, ça. Ce qui est intéressant, c'est que le Père semble s'effacer pour faire place au Fils, et le Fils retourne le mouvement en s'effaçant à son tour pour dire « je ne fais rien de moi-même, c'est le Père qui agit en moi ». Il y a tout le temps ce jeu d'effacement. L'un et l'autre s'effacent l'un vis-à-vis de l'autre.
C'est le verset 30. « Moi, je ne puis rien faire de moi-même. Oui. Je juge selon ce que j'entends. Oui. Et mon jugement est juste. Oui, parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. »
Moi, je crois que c'est dans l'effacement de soi que se révèle le mieux la vie de Dieu, et celle du Père et celle du Fils.
On peut se dire aussi que quelquefois dans la vie relationnelle, nous prenons énormément de place, mais quand nous réussissons à laisser la place à l'autre, là, l'autre s'épanouit.
S'épanouit et la vie jaillit entre nous. Et, mais sûrement, libérer l'autre fait jaillir la vie.
Ce n'est pas un renoncement mortifère, que du contraire.
Au contraire. L'effacement pour faire place à l'autre, c'est un geste divin. Pour nous aussi.
C'est un effacement pour que l'autre s'épanouisse et puis que la vie s'accomplisse.
Tout à fait. Et nous trouvons déjà ça, d'ailleurs, j'y reviens, c'est une vieille marotte chez moi, dans le Cantique des Cantiques. Hein, la bien-aimée, malgré son adoration pour le bien-aimé, lui dit en termes presque d'adieu, « Fuis, reste toi-même ». C'est une parole d'amour.
Et cette parole d'amour, « Sois toi-même, va vers toi-même, oui. Accomplis-toi dans ta plénitude ».
C'est une phrase qu'on trouve assez souvent dans l'Ancien Testament. Dans l'appel d'Abraham, il y a cette parole, exactement celle que vous venez de prononcer, va pour toi-même, va vers toi-même. C'est une phrase extrêmement fréquente et dans la Genèse et surtout dans le Cantique. Alors.
Et en écho, je pense que c'est Isaïe qui souhaite que telle créature apparaisse au comble de sa beauté. Pour que tu apparaisses au comble de ta beauté.
Tout à fait.
Nous allons là-dessus faire une petite pause musicale, Père José. Oui. Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive de l'Évangile de Jean. Nous sommes en plein chapitre 5. Souvenez-vous, l'émission précédente, c'était la guérison du paralytique à Jérusalem. Et puis, toute la réflexion sur ce lien, cette intimité entre le Père et le Fils. Nous en étions là, Père José, quand maintenant, à partir du verset 31,
oui.
Eh bien, il s'agit du témoignage. Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas recevable. C'est un autre qui me rend témoignage. Comment comprendre ce thème du témoignage, Père José ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il accroche le thème du témoignage à celui de l'œuvre qu'il accomplit sur l'ordre du Père et qui est de rendre la vie. Jésus l'a dit plus haut, ce sont les œuvres qui me rendent témoignage. Au fond, c'est ce qui nous permet, je dirais, de reconnaître comme un signe la présence de Jésus, c'est le retour de toute chose à la vie. Dès qu'il y a éveil ou réveil de la vie, il y a un signe de présence, d'une présence mystérieuse et définitive. Et donc, le témoignage, tout de suite, il dit « c'est un autre qui me rend témoignage ». Donc, il s'efface de nouveau, et je sais que le témoignage qu'il me rend est véridique. Donc, toujours ce mouvement d'effacement, chaque fois qu'il apparaît sur la scène, Jésus se retourne et renvoie à un autre. C'est son mouvement, c'est son être. Il est le Fils, l'expression, le reflet du Père. Et c'est ça son témoignage. Et c'est à la fois ce qu'il fait dans l'esprit et ce mouvement de retour au Père immédiat.
Au fond, Jésus n'est pas du tout dépendant, mais il est profondément relié.
Ah, tout à fait. Jésus n'est pas dépendant. Il dira dans le même discours, le Père et moi sommes un, et quelques versets plus loin, il dira, le Père est plus grand que moi. Les deux aspects sont toujours présents dans sa parole. Il est l'égal et pas du tout le dépendant. Donc, je cherche un autre mot, le reflet. Il est l'égal, mais il se reçoit de l'autre. Il se reçoit.
Et alors, il y a aussi ce témoignage de Jean. Oui. Jean le Baptiste revient ici et il dit... Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas que j'ai à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi afin que vous soyez sauvés. Jean fut la lampe qu'on allume et qui brille. Jean le Baptiste, encore une fois, il revient quand même plusieurs fois.
Mais ici, il y a, à propos du témoignage, le passage du précurseur, Jean, à Jésus, et puis à l'Esprit. Et entre les deux, ou entre les trois, il y a Moïse aussi. Voilà les trois témoins, Moïse, Jean, Jésus, et l'Esprit de Jésus. Et ça, c'est intéressant, parce que à l'époque où l'évangéliste Jean écrit, il y avait une certaine polémique, une certaine rivalité entre les disciples de Jean le Baptiste, qui persistent après la Pâque, et les nouveaux chrétiens. Et une certaine jalousie. Les disciples du Baptiste ne voulaient pas renoncer à croire qu'il aurait été le Messie. Alors Jésus rappelle, avec discrétion mais avec fermeté, que Jean, le premier, s'est effacé. Vient derrière moi celui qui est plus grand que moi. Et donc, toutes ces allusions à la succession des témoignages sont très importantes. Moïse, Jean, Jésus.
Et Jésus se relie au Père, et quand il dit « mon Père est plus grand que moi », il se situe dans une filiation.
Oui,
et ça,
oui.
ce n'est pas un hasard. Pour nous aussi, nous sommes dans une filiation. Que nous soyons à l'aise ou pas à l'aise avec notre propre filiation, nous sommes tout de même fils d'eux.
Et nous sommes sans cesse engendrés par Dieu. La foi au Christ fait de nous de réels enfants de Dieu. Et ça, ils ne pourront jamais renier ça.
Oui, et je voulais dire aussi que nous sommes enfants des hommes. Nous sommes fils et filles, nous sommes dans une filiation avec tout ce que dans cette épaisseur humaine, nous avons comme héritage et que nous portons quelquefois.
Mais depuis l'incarnation, l'humanité est devenue transparente, rayonnante et significative. Elle a pris son sens. En devenant homme, Dieu donne son sens définitif à l'homme.
Vous dites que Jésus vient diviniser la nature humaine ?
Ah oui, tout à fait. C'est un vieux thème des pères de l'Église. Ils ont pressenti ça dès le IIe siècle, je crois, dès Saint-Irénée. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu.
Et je pense que c'est Saint-Irénée qui dit « la gloire de Dieu, c'est l'homme debout ». Or ici, nous sommes juste un peu après cette guérison où Jésus dit « lève-toi, mets-toi debout ».
Le mot « éveille-toi, réveille-toi, mets-toi debout » sont des mots pleins du sens de la résurrection. Se mettre debout, c'est entrer un peu plus profondément dans la résurrection.
Père José, si on s'arrête au verset 39, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle.
Oui.
Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. De nouveau, nous sommes dans le thème du témoignage. Mais vous êtes en train de vous tromper, vous cherchez quelque chose qui n'est pas là.
Non. Et ce qui est curieux, c'est que dans le judaïsme, il y a une tendance à saisir et à immobiliser ce qui est perçu comme jaillissement de Dieu. Mais on l'immobilise. C'est tout le problème, je crois, du cheminement dans la foi. C'est que la foi nous demande de nous ouvrir, d'accueillir, mais pas de retenir. De nous laisser traverser et emmener dans un mouvement qui nous ouvre à toujours plus.
Mais le jaillissement, Père José, ça échappe ?
Oui, mais il doit échapper.
Et ça échappe aussi à l'autorité ?
Ah oui, oui, bien sûr. Ah, mais c'est le thème de la liberté ici. Oui. En principe, la foi rend libre.
Et souvent, la foi est récupérée par les appareils religieux.
Elle est récupérée et elle est immobilisée. Il y a tout le thème de la paralysie qui est là.
Oui, nous avons commencé le chapitre par la paralysie et nous y sommes toujours.
Voilà qui revient.
Alors, il y a aussi un autre verset qui est extrêmement intéressant. C'est le verset 43. « Je suis venu au nom de mon Père. » De nouveau, c'est l'intimité ici qui est mise en valeur. « Et vous refusez de me recevoir. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. » Là, c'est du dépit, c'est un peu une accusation. Jésus se fait un peu brusque.
Mais Jésus peut être apparemment dur, mais non pas vis-à-vis des personnes, mais vis-à-vis des attitudes. Ici, son reproche s'adresse à une attitude, pas à une personne. Il ne juge jamais les personnes. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez la gloire les uns des autres, et ne recherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique ? Et la gloire qui vient du Dieu unique, vous savez, le mot gloire en hébreu, en grec aussi, mais en hébreu surtout, c'est la venue, c'est l'éclatement de la lumière. L'éclatement de la lumière. C'est ça la gloire.
C'est tout de même très très proche de cette belle image du jaillissement.
Ah oui,
jaillissement, éclatement de la lumière, nous sommes tout proches.
Ah mais, en Dieu, tout est mouvement. Il n'y a rien de pire que de se réfugier dans l'immobilité. Et ça, c'est le péché des chrétiens, de beaucoup de chrétiens. Rechercher l'immobilité par souci de sécurité. Alors que la vraie liberté, c'est celle qui met debout et en mouvement, avec le poids du grabat sur le dos.
Et nous voilà revenu à cette image de ce paralysé, de ce paralytique, et qui est guéri, qui est rendu à la vie, et qui honorera peut-être sa vie. Celui que nous avons vu au début du chapitre était un peu timoré, semble-t-il, mais c'est une vie jaillissante, éclatante, qui nous est proposée.
Et une vie en marche. Je crois que Chouraki traduit la première des béatitudes.
Debout.
Je crois qu'il dit debout.
Debout et en avant, oui. Oui. Et il rejoint la résonance du mot hébreu.
C'est bien pour ça que ce mouvement, eh bien, nous le suivons nous aussi, Père José, puisque nous faisons cette lecture cursive qui est au fond une sorte d'immense chemin que nous frayons à travers l'évangile de Jean.
C'est ça, c'est un chemin qui n'exclut pas qu'on trébuche de temps en temps, mais qui nous pousse à toujours continuer à aller de l'avant, en avant.
Et si vous voulez bien, nous allons en rester là pour aujourd'hui, en annonçant d'ailleurs un chapitre important mais délicat, c'est le chapitre 6, où Jésus nourrit une grande foule, où Jésus marche sur la mer, et puis c'est le fameux discours sur le pain de vie. Mais c'est pour la prochaine fois.
Oui, mais donc, on peut prévenir le lecteur que c'est un chapitre difficile, peut-être plus difficile encore que le chapitre 5.
Nous voilà prévenus, nous vous attendons, Père José, au revoir, merci et à vous tous, merci aussi.
Merci à vous, cher Père Paul.